1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Je ne vais pas remettre le générique. Deux, trois petits soucis sur la table de mixage de Radio Campus Orléans, mais ça arrive. C'est un bâton rompu qui démarre. J'espère que vous n'êtes pas parti déjà. Sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, magazine d'info tous les mardis de 19 à 20h. Bonsoir et bienvenue à vous, si vous nous faites l'amitié de nous écouter, d'être resté d'ailleurs. Salut Victor, qui m'accompagne tous les mardis.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Notre invité ce mardi est Ludovic Bourreau. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir à tous.
Est-ce que votre micro... Alors, allons-y.
Bonsoir.
Ah, ça va être beau. Elle va être belle cette émission. Alors, je... Votre micro...
Bonsoir.
Ah, oui, évidemment. J'avais oublié d'appuyer sur un bouton. Vous êtes conseiller municipal à Orléans, conseiller municipal d'opposition. Vous êtes conseiller métropolitain également. Vous avez créé cet été une association Vivement Orléans. Vous dites vouloir rassembler les habitants qui veulent réfléchir et agir pour l'avenir d'Orléans. Vous allez nous expliquer tout ça dans l'émission. Hier, devant le rectorat d'Académie d'Orléans, un rassemblement en hommage à Dominique Bernard, professeur de français tué vendredi devant son lycée à Arras, dans le Pas-de-Calais, et Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné, lui, il y avait 3 ans, jour pour jour, hier. Un rassemblement à l'invitation du laboratoire Loiret de la laïcité et de l'intersyndicale du Loiret. Nous entendrons Gilles Kounowski, président du laboratoire Loiret de la laïcité, ainsi que deux professeurs qui, le matin même, avaient échangé avec leurs élèves sur le drame. Jeudi prochain, Les élus de la région Centre-Val de Loire se réunissent en session plénière. On va y parler beaucoup de finances. On appelle ça les orientations budgétaires pour préparer le budget 2024 de la collectivité. Le président François Bonneau veut inviter les élus à plus de solidarité en ces temps difficiles. On l'entendra à la fin de l'émission. Et pour démarrer cette émission, vous le savez, Mourad Guichard, journaliste indépendant au téléphone, nous parlons de Proche-Orient aujourd'hui.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hassan.
Bonsoir. Ce soir, ta chronique nous amène au Moyen-Orient, comme d'ailleurs toutes les rédactions du monde en ce moment, avec la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. D'ailleurs, tu dis quoi toi, territoire occupé ou territoire en partage? J'expliquerai tout à l'heure pourquoi je te pose cette question.
Oui, j'ai toujours parlé de territoire occupé. On est sur... Bah, je vous apprendrai rien en disant qu'on est sur une véritable poudrière et qu'on est qu'à un nouvel épisode d'une guerre livrée entre qui se libre depuis bientôt 70 ans entre effectivement des forces politiques, on va y revenir, mais les forces politiques présentes à Gaza notamment et en Cisjordanie et les différents gouvernements israéliens, même s'il y a eu des tentatives de processus de paix. On sait qu'aujourd'hui, avec le gouvernement actuel de droite et d'extrême droite israélien, il n'y a absolument plus aucune chance, voire des calculs qui sont faits pour pourrir encore un peu plus la situation et s'autoriser à cette fameuse défense, le droit à la défense qui justifie en ce moment des véritables crimes de guerre.
Ouais. Je posais la question parce qu'il y a eu de vrais débats dans des rédactions, hein, non des moindres, hein, pour dire est-ce qu'on dit territoire en partage ou territoire occupé. Donc voilà, je suis...
Tout à fait, comme pareillement, et on a encore eu un épisode malheureux ce matin avec la députée Danielle Obono chez Bourdin,
oui.
sur cette question de savoir est-ce qu'on qualifie de terroriste ou est-ce qu'on parle de crime de guerre concernant à la fois le Hamas et l'attitude actuelle, je le redis, du gouvernement israélien. Et là, on tombe dans quelque chose de complètement hystérique. Et je pense que notre rôle, justement, notre rôle de journaliste, c'est de prendre un maximum de recul. C'est ce que font très bien certains historiens qu'on croise actuellement ou des spécialistes des questions géopolitiques, ils prennent le temps et le recul nécessaire et ils sont de manière assez régulière et notamment, alors je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Danielle Obono et de Bourdin, Jean-Jacques Bourdin, c'est terrible. Parce
il a posé la question trois ou quatre fois. Est-ce que...
Oui, c'était une rafale, c'était une sommation. Et d'ailleurs, je remarque et je suis vraiment pas tu le sais Hassan et les auditeurs le savent, je suis jamais dans cette suspicion là, enfin ça retombe une nouvelle fois sur Danielle Obono qui est une femme qui est noire et qui s'est retrouvée mais complètement déstabilisée et qui a été sommée alors qu'elle essayait d'avancer des arguments. Alors les arguments on peut les contredire, les contrarier, il n'y a pas de problème, mais on laisse parler les gens. Et lui effectivement, comme tu dis, l'a sommée à plusieurs reprises façon rafale de questions. On n'était plus du tout dans le journalisme, là on était dans l'injonction et on était dans quelque chose qui ressemble à du divertissement, de l'animation quasiment, pour essayer de faire le buzz au maximum et quitte à trafiquer ensuite un tweet, puisque le tweet qui fait dire à Danielle Obono que c'est un mouvement de résistance, le Hamas, en fait cette phrase n'a jamais été prononcée et il suffit de le voir, il suffit de cliquer, d'aller
écouter, oui.
elle ne l'a pas prononcée, elle a répondu à une injonction qui n'a pour moi pas beaucoup de sens journalistique.
Oui, bien sûr. Et alors depuis le 7 octobre dernier et l'incursion du Hamas dans des massacres, hein, vraiment il faut le dire à terme,
ce sont des crimes de guerre.
Des crimes de guerre, absolument.
Absolument aucun souci pour
le débat est resté à ça justement. Est-ce qu'on dit crime de guerre, est-ce qu'on parle de terrorisme? Jean-Luc Mélenchon a été sommé de changer ses tweets pour dire c'est du terrorisme, sinon il n'était pas digne de diriger ce pays. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, de ce débat?
On peut reprocher énormément de choses à Mélenchon, et c'est là, c'est en train de fracturer. C'est pour ça aussi que je trouve intéressant qu'on puisse aborder cette question-là, parce que c'est pas seulement le Moyen-Orient, c'est en train de se... Non pas de s'importer, parce que j'aime pas trop ce concept, mais c'est en train d'avoir une incidence sur la vie politique française à gauche. Mmh. Et je la trouve regrettable, parce que c'est pareil. Enfin, je trouve qu'il y a une mystérisation du débat et des débats. Quand on écoute posément les arguments avancés par Jean-Luc Mélenchon, notamment, ils sont exactement contraires à ce qu'on veut lui faire dire. C'est-à-dire qu'il rappelle que le droit international, ce qui est un fait vérifié, le droit international ne reconnaît pas le terrorisme. Il n'y a aucune instance internationale, je pense évidemment à la Cour pénale, qui puisse condamner des personnes pour terrorisme. Par contre, pour crime de guerre, oui. Donc, rechercher la qualification de crime de guerre me semble beaucoup plus porteur dans l'avenir, c'est-à-dire que ça permettra à la fois de faire comparaître les criminels de guerre, et surtout les organisateurs et les gens qui l'ont planifié. Et il y a un excellent texte que tu m'as fait suivre tout à l'heure, d'un ancien professeur...
Oui, absolument, à la faculté de droit et d'économie et gestion, qui s'appelle Vincent Cizère, que j'ai eu le plaisir d'interviewer sur cette antenne sur des questions touchant au droit international. Vincent Cizère est maintenant professeur à l'Université Paris...
À Nanterre,
absolument. Et dans The Conversation, hein, qui est aussi un site, amis auditeurs, à aller voir de temps en temps, parce qu'ils vont à l'essentiel, il y a des spécialistes. Vincent Cizère dit notamment, hein, dans cet article, oui, la qualification de crime de guerre apparaît préférable à celle de terrorisme en ce qu'elle permet de restituer aux faits toute leur gravité. Faut-il le rappeler, les crimes de guerre, notion consacrée au procès de Nuremberg au lendemain des atrocités perpétrées par le régime nazi, compte au nombre des infractions les plus graves qui puissent être commises et à ce titre justiciable de la Cour pénale internationale. Voilà ce qu'il dit dans son article.
Il ne dit pas autre chose que ce qu'a dit et développé quand on lui laisse le temps de le faire, Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est complètement... il parle même de requalification des faits, puisqu'il dit que considérer comme criminel de guerre ceux qui s'adonnent au massacre tel que ceux perpétrés par le Hamas, ouais, depuis samedi dernier, permet au contraire de garantir que l'extrême gravité et le caractère intolérable de ces actes demeurent incontestés, quelle que soit la finalité qu'on leur prête.
Absolument, absolument.
Et donc on est vraiment sur l'article 28 du statut de Rome, et je termine là-dessus, cela permet également d'envisager la poursuite devant la Cour pénale internationale, non seulement des auteurs directs de ces crimes, mais encore et surtout des dirigeants ayant planifié et ordonné l'attaque directement responsable en application donc, du fameux article 28 du statut de Rome. Alors, ce que tu as évoqué... la question de Nuremberg et de la Shoah. Je crois que, et notamment Van der Leyen est allé en Israël en reparlant avec toujours ce même élément de langage qu'on retrouve aussi chez les politiques français, notamment de droite, à savoir qu'il y aurait de facto un soutien inconditionnel à Israël. Alors, cette expression, je la déteste parce qu'elle est complètement ambiguë. Oui, évidemment que l'État d'Israël est un État qui doit être reconnu. Enfin, il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, quand on dit qu'on soutient Israël, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on soutient légitimement le peuple d'Israël qui a le droit de vivre en paix? Là-dessus, il n'y a absolument aucune discussion à avoir, y compris évidemment pour le peuple palestinien. Ou est-ce qu'il soutient inconditionnellement la politique d'Israël, quel que soit son gouvernement? Et je crains, vraiment, je crains que finalement, on n'est pas si éloigné que ça de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai le sentiment que l'espèce de culpabilité tout à fait légitime, pour le coup, la culpabilité des dirigeants politiques successifs européens sur la question de la Shoah, les pousse parfois, avec des caricatures comme celle de, par exemple, Manuel Valls, les pousse parfois à avoir un comportement de quelqu'un de coupable, et donc de tenter de racheter à tout prix, et ça se fait depuis 70 ans, sur le dos des Palestiniens. Et ça, c'est pas tolérable. On peut pas entendre ça. Donc oui, le Hamas a commis des crimes de guerre. C'est un fait. C'est un fait juridique. Je dis bien juridique. On n'est pas dans le... Il faut pas rentrer dans les considérations. Je crois que c'est Pujadas ou je sais plus qui. Non, Thomas Hugues, qui avait sommé, pareil, Robelotte, qui avait sommé et qui s'était moqué ouvertement d'une historienne qui essayait d'expliquer que le Hamas, structurellement, je dis bien structurellement, n'est pas comparable à Daesh, oui, pour des raisons pratiques, politiques, structurelles. Elle a essayé de développer ça, mais évidemment, sur les plateaux, c'est bien plus intéressant d'aller essayer de pointer, parce que très clairement, ce qui est sous-jacent, c'est qu'ils accusaient, comme ils le font avec les politiques, notamment avec les gens des défis, ils les accusent non seulement de complaisance, mais voire même peut-être de soutien.
C'est ça.
Au Hamas. Mmh. Et on peut penser ce qu'on veut de la politique de la France insoumise. On ne peut pas raisonnablement les qualifier, comme on le fait très souvent d'ailleurs, d'antisémitisme, ou de les qualifier de soutien à l'action terrible, terrible. Enfin, on a des images comme celle-ci, on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Ça visait des civils. Et un civil, alors voilà, c'est ça, contrairement à ce que disait Pujadas, qui a osé poser la question de savoir si un civil palestinien valait israélien, ce qui est juste abject. Les civils doivent être protégés. Et là, j'entendais chez nos confrères de France Inter ce midi, de France Info, pardon, ce midi, intervenir. Il y avait une table ronde qui était organisée notamment avec des ONG. Toutes les ONG sont unanimes, elles ont raison de l'être, notamment Médecins du Monde, sur le fait qu'il est inacceptable, et c'est en violation totale du droit international et des traités, d'interdire l'accès aux soins, à l'eau, avec des réserves d'eau qui devraient permettre de tenir encore quelques jours. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les nourrissons? Comment on traite? Comment on survit sans eau? Enfin, c'est juste impensable d'avoir osé partir sur des punitions collectives comme celle-ci. Qu'ils veuillent, comme dirait Macron, aller chercher le Hamas, bah, qu'ils y aillent, quand il parlait de sa propre personne au moment des Gilets jaunes. Mais en aucun cas, les populations civiles, d'un côté ni de l'autre, ne peuvent payer ce conflit qui n'a que trop duré et qui est en train de s'enliser dans quelque chose de quasiment international, puisque les menaces arrivent de toutes parts. Les pays apportent soit leur soutien inconditionnel, ce qui est complètement délirant, soit quand on a un ami et qui dérape à ce point-là, si tant est qu'on puisse parler de dérapage, mais je veux dire, on a un rôle de lui expliquer que non, c'est pas possible, et que ça pourrait avoir des conséquences s'il continuait. Là, c'est pas le cas du tout. C'est complètement, c'est du va-t-en-guerre je leur dis une nouvelle fois, va frapper et frappe déjà très très lourdement des gens qui n'ont absolument rien demandé et qui n'ont surtout pas de lien direct avec ce qui s'est passé samedi dernier.
Et cette question à toutefois, hein, tu le disais en début de chronique, des incidents sur la vie politique en France. La NUPES est partie en morceaux, tout le monde dit ça, sur cette histoire notamment. On attend une décision des socialistes. Le PS doit se réunir ce soir pour savoir s'il continue à aller avec la NUPES. Le Parti communiste a annoncé ce week-end, le week-end dernier en tout cas, qu'il n'en faisait plus partie, je crois, c'est ça hein, qui a été dit.
Oui, qu'il fallait proposer une nouvelle structure à gauche.
Comment vois-tu l'avenir?
Je crois vraiment qu'il faudrait être naïf pour ne pas imaginer que tout ça a servi de prétexte pour accélérer un processus de tension assez particulière que vit actuellement la NUPES. Je ne pense pas que ce soit... Et c'est pour ça que je parlais d'hystérisation du débat. C'est-à-dire que je ne pense absolument pas... Vous voyez, par exemple, si vous allez sur Twitter, vous allez tomber sur des réactions aux prétendues déclarations de Daniel Obono qui sont faites, mais je pense qu'ils n'ont même pas écouté. Parce que s'ils avaient écouté, ils auraient entendu qu'elle n'avait pas dit ça. Donc je crois que vraiment, il y a une espèce d'hystérisation sous couvert d'accusations d'antisémitisme, finalement, parce que c'est ça le fin mot de l'histoire. C'est qu'il y aurait une espèce de sympathie de la part des cadres de la France insoumise, c'est ce que disent leurs accusateurs, parce qu'ils dragueraient les mouvements islamistes. Vous imaginez un peu l'incroyable accusation, qui ne repose évidemment sur rien du tout, si ce n'est de dénoncer le racisme anti-musulman en France, qui est récurrent et qui éclabousse toute une partie de la communauté française, la partie des musulmans de France et des musulmans français. Donc c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas continuer comme ça. J'ai envie de dire que je préférerais, mais alors ceci dit, entre guillemets, parce que mon avis, on s'en moque, mais je parle en termes d'analyse. Je préférerais que la NUPES éclate finalement. Même si derrière il y a un danger qu'on voit poindre hein, depuis quelque temps quand même et qui va s'accélérer, c'est-à-dire qui à gauche pour représenter la gauche au moment de la présidentielle face à l'extrême droite. Mais je préférerais qu'on coupe court de manière franche pour le coup, c'est-à-dire qu'on explique les raisons pour lesquelles on n'en veut plus, que de continuer à ce combat fratricide entre les composantes de la NUPES qui ont qui restera pour moi une page, quoi qu'il arrive, qui restera une page historique de la politique française, puisque très honnêtement, et on s'est déjà dit ici, Hassan, moi je ne l'avais pas vu arriver, hein, la NUPES. J'avoue que j'étais très surpris.
C'était pas gagné, non.
Rapidement.
C'était pas gagné du tout, ouais.
Du tout, que les gens se désistent en disant « je laisse ma place à un camarade du PS, je laisse ma place à un camarade des Verts », de faire campagne alors que les gens avaient été investis au départ, mais que finalement, ils ont laissé leur place. J'avoue que j'avais jamais vu ça dans l'histoire politique française, donc au moins depuis que je la suis. Donc, c'était une aventure assez remarquable, et j'espère que si la NUPES, ou la NUPS, comme on veut, implose, qu'au moins, derrière, il y ait une solution autre, sous une autre forme, mais que la gauche reste la gauche et reste soudée.
Merci à toi, Mourad, pour cette chronique.
Merci beaucoup, sur un sujet très, très sensible. Je te remercie vraiment, Hassan, d'avoir accepté qu'on en parle et qu'on prenne le temps
absolument
nécessaire pour pouvoir décrypter un peu tout ça, parce que ça devient excessivement nauséable.
Oui, on pourrait même continuer peut-être la semaine prochaine. On va voir, peut-être inviter des acteurs locaux, des acteurs de la politique locale, anciennement membres de la NUPES, pour qu'ils nous expliquent ce qui se passe en leur sein.
Hein. Donc, alors, l'une des associations, je crois que c'est Orléans, Loire et Palestine, a fait une demande de manifestation, d'autorisation de manifestation pour le vendredi 20, en fin d'après-midi, je crois vers 18h. Donc, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai reçu un communiqué de Denis Petitjean. Ils n'ont toujours pas de réponse, qu'elle soit positive ou négative. Donc, on va aussi attendre de voir si les manifestations... en plus, c'est une manifestation, je crois que c'est aussi à Saint-Étienne, j'avais vu ça. Ils organisent maintenant des manifestations pour le droit des deux États à vivre en paix.
Donc,
ce serait vraiment très compliqué, puisque je vous rappelle que toutes les manifs pour la Palestine sont interdites sur le territoire. Ce serait compliqué d'interdire des manifestations pour le droit des deux peuples à vivre sur leur territoire. Mais on va suivre ça, évidemment, et on en reparlera si vous en étiez la semaine prochaine.
Absolument. À mardi prochain, donc.
À mardi prochain, et bonne émission.
Ciao. Une réaction, Victor, tu voulais réagir à...
Oui, mais c'est vrai qu'il y a une vraie, actuellement, une vraie, je vais pas dire antifada, parce que ce serait quand même de très mauvais goût, mais on va dire qu'il y a quand même une puanteur médiatique qui pousse les gens à vouloir absolument accuser le Hamas de terrorisme pour les actes qu'il a perpétrés sur son sol, et dès qu'il y a la moindre tentative d'explication, de prise de recul, etc., machin, on passe tout de suite... Ah bah du coup vous faites l'apologie du terrorisme.
Et pourtant ce serait temps, et il y a tellement de spécialistes. Je vous parlais de Vincent Cizère, vraiment allez lire ce qu'il a pour avoir. Il a passé énormément de temps au Proche-Orient et il dit les choses qui sont vraies. Mais effectivement on est dans
de l'émotionnel pur, et on n'arrive plus à trouver une explication. Enfin, ça me fait penser à Valls qui avait dit il ne faut pas chercher à expliquer, car expliquer, c'est un petit peu excuser.
Il avait dit ça.
D'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si jamais vous avez envie d'approfondir le sujet, il y a une très bonne chaîne YouTube qui s'appelle À Gauche, qui prend des interviews, des petits entretiens comme ça de personnes... d'historiens, d'anthropologues, etc., qui interviennent sur le sujet et qui sont assez intéressants justement sur la question de la Palestine.
Qui est alimenté régulièrement
Oui, très régulièrement, toutes les semaines, tous les jours, voire même en ce moment. Voilà. Le dernier, c'était Bernard Friot, donc
très bien.
Grand copain.
Absolument, ouais. À gauche. Avec Mourad, hein, vous n'arrêtez pas de parler de gauche ici. Et dès que je sors, on dit « Alors Hassan, t'es de gauche maintenant ?» Et pourtant, tout le monde sait que je suis de droite. Allez, un peu de musique et de la bonne musique. You're leaving. voix de vivante de la soul music, il fallait que je dise. Oui, Lee Field n'est pas encore mort, 72 ans, héritier de James Brown. Et là, sur ce morceau, on a l'impression d'entendre James Brown, hein, vraiment. The One Who Hurts Is You, à l'instant dans Abattant Rompu. Lee Fields revient, il était déjà passé à l'Astrolabe à Orléans le 29 octobre prochain. C'est un dimanche, 7 à 17h, il me semble. Ne le loupez pas si vous ne l'avez jamais vu.
Abattant Rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Ludovic Bourreau, conseiller municipal, conseiller métropolitain, président de Vivement Orléans. Lequel titre vous préférez de ces trois?
C'est indissociable, je vais pas jouer à ce jeu-là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un continuum. Si vous voulez, je viens de la société civile, je viens du monde culturel, je deviens élu et ensuite je m'intéresse au sujet de politique publique et locale. Et puis les années passant, le fait de créer cette association est un pas supplémentaire dans mon engagement local.
Justement, alors vous ne faites pas de la politique comme tout le monde, puisque vous créez cette association qui est plutôt axée sur l'écologie, on peut le dire, l'environnement, la défense de l'environnement. Et le premier sujet dont vous vous occupez, c'est la requalification des mailles à Orléans. Un sujet qui date d'il y a 30 ans. Je suis en train d'en parler avec un copain l'autre jour. Oui, dans les années 80, on avait déjà entendu parler de ça, la requalification des mailles. Vous voyez, toi qui es orléanais depuis pas longtemps, tu vois le Place d'Arc?
Oui.
Tu aimes bien passer par là, en voiture?
On ne peut pas y passer en voiture.
Bah si, tu passes devant. La Trémie. Sur la Trémie, tu sais, pour passer. Mais c'est, bref.
Non, je vois pas. Voilà. J'ai l'impression de jamais passer par Place d'Arc. Donc.
Il faut pas. Il faut en voiture, en tout cas, il faut pas. Et il y a également la Trémie Jaurès qui pose problème depuis des années. Alors, d'ailleurs, pourquoi maintenant que vous êtes dans les papiers de la mairie, pourquoi ça a duré autant?
Alors, juste une petite précision concernant notre association. On la définit pas comme écologiste. C'est un rassemblement de citoyens d'origines diverses qui souhaitent penser leur qualité de vie. Et dans la qualité de vie, il y a cette dimension, et effectivement, la nécessité fondamentale de penser les questions écologiques d'une manière transversale.
Vous attaquez à cette question de requalification des mailles, j'y reviens, c'est pas innocent.
Absolument. C'est au moment où on a créé l'association, tout de suite, on a eu ce sujet qui arrivait dans l'actualité. Les gens nous en parlaient. Moi-même, à la métropole, je me posais un certain nombre de questions qu'on a souhaité poser par le biais d'un questionnaire aux Orléanais.
Si vous voulez, vous faites ça bien, vraiment. Hein. J'ai les chiffres. On va en parler des chiffres, d'ailleurs. Oui. Allez-y.
La première intervention que je fais il y a plus d'un an désormais, c'est le fait de dire j'ai qualifié ce projet de essentiellement cosmétique. Pourquoi? Parce qu'on ne traitait pas de la question fondamentale qui est celle de la circulation sur la métropole. Et dans la mesure où on ne nous dit pas quel nombre de voitures passent, quelle est la circulation aujourd'hui à cet endroit-là de la ville, ce qu'on veut pour demain, finalement, on ne traite pas du tout le sujet. Donc on estime que la circulation, elle est telle qu'elle est, ce n'est pas un paramètre, et puis on refait tout proprement.
Mais sérieusement, est-ce que vous pensez que ce tronçon-là qui traverse Orléans centre, il y a la RN20 dessus, vous pensez sérieusement qu'on va mettre plus de vélos et qu'on mettrait toute cette zone-là 30?
Ça, c'est une possibilité, mais avant d'en arriver là, il faut mettre les chiffres sur la table, il faut mettre une étude de circulation sur la table, il faut mettre les élus métropolitains autour de la table et réfléchir à ces questions-là et de savoir quel est l'état des lieux aujourd'hui, ce qu'on veut pour demain. Je ne sais pas, parler de la gratuité de l'autoroute autour d'Orléans, c'est un paramètre, de voies de contournement. En fait, il faut parler de tout ça avant même de parler de planter des arbres, d'une coulée verte, qui est très bien. Enfin, tout le monde va être pour cette coulée verte. Mais cependant, dans la mesure où on ne traite pas la circulation routière autour, qu'on ne nous fasse pas se croire qu'une coulée verte avec des voies routières les encadrant, avec du bruit, avec de la pollution, ce sera the place to be pour passer un moment sympathique en famille, pour faire du sport. Non, et d'ailleurs l'étude qu'on a, le questionnaire qu'on a donné aux Orléanais nous dit ça aussi, à 68%, ils nous disent qu'en fait, cette coulée verte ne sera pas adaptée aux activités de sport et de loisirs, dans la mesure où autour, il y aura une circulation a priori comme avant, puisqu'on traite pas le sujet.
Cette coulée verte, il faut le rappeler. C'est le souhait de Serge Grouard, le maire actuel, hein, qui veut faire une coulée verte depuis, hein, il me semblait. non ?
Mais oui, mais finalement, enfin, il y a des éléments positifs dans, dans cette requalification, dont cette coulée verte. Moi, je ne vais pas aller contre cette coulée verte, je vais contre la méthode. La question de la concertation, quand on voit qu'il y a à peu près 100 réponses qui sont arrivées sur l'ensemble de la métropole. Sans réponse, la consultation de la métropole. Nous, notre petite association avec nos petites mains, on génère quasiment 500. Donc ça pose la question de la méthode et de la volonté véritablement de concerter les citoyens. Ensuite, les résultats, nous, de notre questionnaire, nous montrent aussi que le projet tel qu'il est pensé actuellement est en décalage complet par rapport aux besoins et aux souhaits des Orléanais, notamment pour un chiffre absolument marquant. Vous le savez, il est prévu que 4 voies de circulation passent demain sur le parvis de Place d'Arc. Aujourd'hui, c'est très laid. On a tous conscience qu'il faut le changer, il faut le requalifier. Mais aujourd'hui, les piétons sont préservés de la circulation automobile sur cette passerelle.
C'est vrai.
Demain, tout sera mis à plat. OK, très bien. Mais par contre, il y aura 4 voies de circulation qui vont croiser le cheminement des piétons. Ça, on est résolument contre.
En face de Place d'Arc ?
Oui.
Mais c'est débile.
Je ne l'aurais pas qualifié aussi abruptement. Je l'aurais pas dit aussi abruptement, mais en effet, ça pose la question de la nature du projet. Voilà. Aujourd'hui, en 2023, on ne peut pas faire ça.
Tu vois bien maintenant où c'est, hein, Place d'Arc. Oui, ben oui. Alors, comment vous avez procédé ? Vous avez envoyé des questionnaires, hein, je ne les retrouve pas. De quelle façon vous avez procédé ?
Alors, on a créé ce qu'on appelle un Google Form, un questionnaire sur l'Internet, qu'on a transmis autour de nous, et puis on a fait un formulaire papier qu'on a diffusé à 2000 exemplaires autour du tracé, ce qui a permis de générer 480 retours, dont beaucoup de retours papier, ce qui montrait, selon nous, l'intérêt que portent les Orléans à ce sujet-là, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on se rendait compte qu'ils savaient qu'il y aurait peut-être quelque chose, mais ils n'avaient pas d'informations sur la nature même, ni même les enjeux en fait, que recouvrait ce projet.
Donc 73% des Orléanais veulent plus de place pour les vélos, et pour les piétons, et 79% s'opposent à la suppression de l'espace piéton devant Place d'Arc, vous disiez. D'autres chiffres comme ça à relever ?
Oui, il y a effectivement un sujet dont on ne parle pas encore et qui, à mon avis, viendra un moment ou un autre, c'est la question des parkings. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait demain, à quel endroit on met des parkings ? Et encore une fois, comment est-ce que... On détermine la capacité des parkings dans la mesure où on ne parle pas de circulation, où on n'a pas parlé du flux, de ce qu'on voulait pour demain. Donc par exemple, est-ce que c'est une solution pertinente et écologique de créer un parking en ouvrage tout en béton, sous le sol, au niveau de la Trémie Jaurès? Moi je pense que ça n'a pas du tout une dimension écologique et qu'il y a peut-être des propositions alternatives à formuler. Et je regrette que pour l'instant, il n'y ait pas eu de discussion à ce niveau-là. Et j'espère qu'on pourra prendre ce temps-là de laisser notamment à notre association de formuler des propositions alternatives. Parce que pour l'instant, aucune étude, un projet qui va arriver tout ficelé, et on ne nous offre pas de solution alternative. Et donc, c'est ça qu'on demande.
Bien sûr. Et alors, en tout cas, bon, voilà, un petit souvenir personnel. Un maire de cette ville nous a parlé de reverdir Orléans, éviter trop de voitures dans Orléans.
Est-ce que c'est la personne qui n'y a pas plus écologiste
non,
qu'elle
non, attends. Et une semaine après, une autre conférence de presse où on nous annonçait le parking au centre-ville, là, à côté de la place de Gaulle. Alors j'ai posé une question qu'un gosse de 10 ans pourrait poser. Vous ne voulez pas de voiture à Orléans et vous faites des parkings. Est-ce que c'est... Je crois qu'il ne m'a pas répondu, je crois. Bon, bah, bref. Il y a ça. Il y a donc la place... Bon, je vois dans votre... La place de la voiture, enfin le rejet carrément hein, de la voiture hein, au centre-ville. Hein.
Le rejet de la voiture vraiment dans l'hypercentre, en fait, il se matérialise de plus en plus dans les grandes villes et les grandes métropoles. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même être honnête intellectuellement et dire que c'est un sujet extrêmement complexe et que traiter de mobilité aujourd'hui et demain, et en fait, c'est vraiment de la dentelle. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut penser aux périurbains, aux personnes qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas forcément de solutions alternatives à la voiture. Et donc ça, il faut le travailler en termes de politique publique. Effectivement, en hypercentre, on veut, et c'est un peu la vision qu'on porte aussi de notre côté, on veut une ville pour les piétons. On veut une ville où les voitures roulent très doucement. On veut une ville où les enfants peuvent se promener sans qu'on ait peur qu'ils se fassent renverser. Et c'est ça qu'on veut. Et en fait, c'est une ville inclusive, en fait, parce qu'on est tous piétons. Et en fait, c'est une ville pour tout le monde. Mais en fait, C'est une forme de ce qu'on demande aussi, et dans les grandes villes et dans les grandes métropoles, c'est un rééquilibrage de l'espace public, en fait. La voiture prend beaucoup d'espace, et donc, en fait, si on veut une ville avec plus d'arbres, avec plus de terrasses dans les cafés, il va falloir reprendre de la place à la voiture pour une ville plus humaine. Et c'est ça qu'on défend, en fait. On n'est contre personne, et ça, il faut bien le dire. Il faut donner envie d'une ville plus humaine.
J'ai entendu dire quelque part que dans votre association, il y a pas mal de commerçants.
Il y en a.
Alors, je poursuis ma question. Cette question de la voiture, hein, pour avoir posé également des questions à pas mal d'élus de la métropole, c'est que ça venait aussi de demandes de. Enfin, les commerçants ne comprendraient pas qu'on réduise ou on. Vraiment drastiquement la place de la voiture parce que les gens viennent acheter. Il y a des parkings, ils peuvent acheter beaucoup. Voilà. Ils ne peuvent pas prendre le tram ni le bus avec. Pas mal de courses. Alors, vous répondez quoi à ça ?
C'est une question qui évolue. C'est une question qui évolue. On le sait historiquement que globalement, les commerçants, ils ont bien raison de craindre, en fait, pour leur économie. Donc, en fait, ils font très attention à la manière dont leurs clients viennent, en fait. Ce qu'on sait, les études l'ont montré, c'est que lorsqu'on piétonnise des quartiers entiers, le commerce se développe. Enfin, je veux dire, c'est allez voir les commerçants d'Orléans qui sont dans des rues piétonnes et demandez-leur s'ils veulent faire marche arrière. Je prends le pari qu'ils voudront pas faire marche arrière. Donc la question, c'est un équilibre constant. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est qu'une ville qui soit fréquentée, que les gens puissent y arriver assez rapidement et puissent circuler et effectivement aller dans leur commerce et consommer et que tout le monde soit satisfait. Ce que je crois, c'est que il faut préserver au maximum des rues piétonnes et ce sera bon pour tout le monde, ce sera bon pour les commerçants, quel que soit leur commerce. Et il faut continuer à avoir ces discussions, d'où l'importance d'avoir des commerçants aussi parmi nous qui nous parlent concrètement de leur commerce. Ils connaissent leurs clients.
Je trouve ça intéressant, mais je voulais poser la question. Est-ce qu'ils sont parmi ceux-là qui se disent « Moi, j'aimerais bien qu'il y ait moins de voitures. Ma qualité de vie en dépend également. » Et que voilà, par contre, et que mon commerce peut-être aura moins de clients. Ça va.
Ce sont des réflexions qui sont en cours et regardez autour de vous. Encore une fois, les commerçants qui sont encore dans des rues où il y a beaucoup de circulation se posent des questions. Oui. Et ceux qui ont passé le câble, c'est-à-dire qui ont la chance d'être dans des rues piétonnes, eux, ils feraient le retour pour rien au monde. Donc en fait, il faut prendre le temps de cette discussion, rassurer, c'est important, donner envie. Il faut vraiment donner envie d'une ville plus humaine et ça, c'est un des enjeux fondamentaux. Donc pourquoi pas se garer un tout petit peu plus loin ou dans des parkings en ouvrage. J'ai cette conviction qu'en fait, une ville plus humaine, c'est bon pour tout le monde, y compris pour les commerces.
Et vous, tout à l'heure, je disais, vous étiez vraiment axé sur l'écologie, même de fait, avec ce premier sujet, mais vous voulez parler de tout, réfléchir sur tout dans cette association. Le cadre de vie, on vient d'en parler, mais le reste, dans le cadre de vie, on peut mettre aussi la culture. Vous venez du monde culturel, on peut parler de plein d'autres choses.
Tout ce qui impacte notre quotidien, d'accord, en fait. Les politiques publiques, en fait, ne séparent aucun sujet. La propreté, vos rues sont-elles propres? La sécurité, c'est fondamental aussi. La culture, mon premier sujet de prédilection. L'activité d'une ville, d'un territoire, le lien à l'économie, la vitalité des quartiers. Ça, c'est un sujet fondamental. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'on a encore des commerces de proximité? Est-ce que notre quartier vit bien? Remettre de l'humain, en fait. Remettre de l'humain dans la ville.
Votre premier questionnaire a rencontré le succès. Vous allez en faire d'autres. Cette façon de travailler est plutôt pertinente.
C'est une méthode qui nous permet de rentrer en contact avec les Orléanais. C'est vraiment l'ADN de notre association, c'est de réfléchir avec eux, d'aller vers eux, de leur poser des questions et, si vous voulez, d'avoir une matière ensuite à analyser pour faire des propositions et leur faire des retours. Après ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, on a fait des retours sur ce questionnaire et ça nous permet aussi, après nous, de réfléchir à faire des propositions. Donc, la méthode, elle fonctionne bien. Une association naissante qui fait un premier questionnaire avec plus de 500 réponses, c'est beaucoup.
C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Mais vous allez susciter des attentes. Si des gens qui vous suivent à partir de maintenant et qui vous répondent régulièrement, vous dites mais vous allez en faire quoi de ce qu'on discute entre vous et nous? Pourquoi vous ne présentez pas la prochaine élection? La prochaine municipale, c'est dans 3 ans. C'est demain. Vous y pensez?
Moi, j'y pense pas à titre personnel. Encore une fois, j'ai un engagement d'élu municipal et métropolitain jusqu'en 2026. Mon rôle, c'est de faire tout ce que je fais aujourd'hui, d'activer aussi de nouvelles personnes.
Mais il y a des attentes.
Bien sûr.
Une fois que, alors, on fait quoi de ça ? Moi, j'ai pas envie de répondre pour que ça ne soit pas mis sur le terrain.
Enfin, alors, nous, on a été assez clair là-dessus. On se laisse la possibilité, en fin de course, de présenter un programme et de présenter une
D'accord.
liste. Mais convenons tout de même qu'à ce jour, l'heure est au travail. L'heure est au travail, à la consultation, au lien avec les habitants. Le reste, on a largement le temps d'y penser.
Vous avez des jeunes avec vous ?
Le but, c'est d'avoir toutes les générations. Est-ce que je suis jeune, par exemple, moi, vous voyez ?
Oh, en tout cas, plus que moi, mais un peu moins que Victor.
Un chouïa.
Un peu moins que Victor. Mais Victor, ça t'intéresse, là, ce qui se passe comme ça, la démocratie participative.
Ah oui, oui, moi, je suis à donf dedans. Donc,
évidemment, j'étais sûr. Alors, comment aussi... Est-ce que ça continuera comme ça ? Vous m'avez répondu oui, mais est-ce que vous réservez aussi le temps d'aller rencontrer des gens dans les quartiers, dans des salles, à l'université, venir voir des jeunes à l'université ?
Oui, absolument. Après, la question, c'est aussi que les propositions émanent de l'association, des membres de l'association. Donc, on les consulte en permanence, on leur demande quelles sont leurs envies et comment rentrer en contact avec les habitants et sur quel thème. Mais invitez-moi quand vous le souhaitez.
Ah, mais moi, je suis prêt à mettre en place quelque chose comme ça pour que vous discutiez avec les étudiants. Parce que, en tout cas, là, sur le vélo et ce dont on vient de parler... ça rencontre énormément, pas mal d'adhésions, en tout cas pour les étudiants que je connais, qui passent à Radio Campus.
C'est un sujet que je défends depuis 2020. Et on sent bien, on le voit bien, je ne sais pas si nos auditeurs le voient, ça monte extrêmement en puissance, la mobilité à vélo. Ah, déjà en 2020, on le voyait avec l'après-Covid, mais vraiment, ça a encore explosé de manière exponentielle. Et donc, le combat qu'on menait déjà en 2020, avec plusieurs élus de la métropole, on s'est rassemblés sur ce combat-là en disant, mais écoutez, c'est quand même incroyable qu'on en soit encore au point mort du plan vélo voté en 2019. On a guère fait de progrès depuis. Le maillage des pistes cyclables sécurisées, c'est quand même pas brillant, c'est quand même alarmant même. Et donc, on a perdu un demi-mandat pour l'instant, il s'est absolument rien passé. Alors que il y a de plus en plus de cyclistes sur le territoire. Et puis surtout, c'est quand même le moment d'inciter les gens à prendre leur vélo. Et donc, on le voit bien, le premier frein, c'est le sentiment d'insécurité. Et pour traiter ce sentiment d'insécurité, il faut travailler sur ce maillage et ça prend des années. Ça prend des années. Il se dit qu'il y aurait une ligne une dans les tuyaux, et ça serait très bien, qui relierait le sud de la métropole au nord, passant par le centre-ville. Et ce serait très bien, mais combien d'années ça va mettre à se mettre en place ? Combien d'années on mettra à faire émerger un réseau cyclable de qualité ? Pour l'instant, on ne voit rien venir.
Bah, présentez-vous, gagnez dans 3 ans et faites ça. Non.
Je viendrai à vélo, en tout cas. Je viendrai à vélo à votre micro, mais encore une fois, la question de se présenter pour l'instant, la question de la personnification à laquelle tout le monde s'attache, en fait. Pour moi, ce n'est pas mon sujet à ce jour. C'est d'activer des profils nouveaux aussi, c'est important. Je pense qu'il va y avoir un renouvellement de génération et qu'il faut activer des consciences et de nouveaux profils. Et ça, c'est important. C'est aussi une partie du travail qu'on mène, de se dire, voilà, si telle ou telle personne, on peut les amener à cet engagement local, ce sera déjà un succès.
Une question qui me vient par ma page Facebook. Un jeune, en plus, voilà.
Un jeune comme moi ou...
Non, vraiment, un étudiant qui me demande s'il a envie de vous de discuter avec vous. Est-ce qu'il y a un site, un endroit en tout cas sur les internets où on peut vous contacter ?
Alors la discussion, je vais y aller franco. Ouais. Je suis un élu de Troquet.
Ah oui.
Vous voyez ?
Bon, ben
donc on peut se voir au café pour discuter à n'importe quel moment. Vous donnerez mes coordonnées. C'est toujours mieux le lien, oui. Le lien réel. Vous voyez, par exemple, avec notre association, on pourrait se faire des visios. J'y tiens pas tellement.
D'accord.
L'idée, c'est se retrouver, d'échanger. Et d'ailleurs, vous avez remarqué comme moi quand même les tensions qui se font jour. Vous en avez parlé tout à l'heure sur différents sujets, sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'est devenu assez insupportable. Je suis de moins en moins présent. Mais je, sans pour autant avoir jamais quitté la vraie vie, En tous les cas, je fais un pas en arrière des réseaux sociaux et je passe beaucoup plus de temps en fait à générer des discussions en vrai plutôt que sur les réseaux. C'est pas du temps de perdu. Et je pense qu'on gagne en qualité et en sincérité.
Vivement Orléans, nouvelle association à Orléans pour penser et réfléchir l'Orléans de demain. Ludovic Bourreau, merci d'être venu dans l'émission. Une petite dernière question quand même sur la culture, parce que chaque fois que vous venez ici, je ne manque pas de vous poser une question sur la culture. Et on en parlait avant de rentrer en studio. Là, on va rentrer dans une période automnale et il y a de moins en moins d'activités sur Orléans. Comment on fait avec cet été où il y a eu des activités tout le temps, des guinguettes partout, des festivals, et à une période où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien jusqu'à... On attendra maintenant en mars, mai.
Ça pose plusieurs questions. J'en vois deux, en tout cas. La continuité, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire... Vous avez prononcé le mot des guinguettes. On pourrait très bien se dire, mais les guinguettes, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas les faire 12 mois par an?
Mais bien sûr.
En les faisant de manière différente, en les protégeant évidemment du froid. C'est une première question. Et puis, il y a cet éternel sujet culture événementielle, qui sont, en fait, des sujets extrêmement complémentaires. Et je crois que un des vrais sujets des politiques culturelles, c'est le travail au long cours et bien faire cet équilibre permanent entre le travail de fond et l'événementiel. Peut-être que si vous avez cette impression-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'événementiel cet été, que
absolument,
là, du fait de la saisonnalité, il y en aura moins. Et bah, donc, du coup, ça donne cette impression. Et donc, moi, je nous engage tous à avoir cette réflexion de travail sur le fond et sur le long terme.
Ça peut se faire aussi par l'intermédiaire de Vivement Orléans.
Par exemple.
Bon. Merci en tout cas d'être venu dans l'émission. Dans un instant, on parle de cet hommage hier aux deux professeurs assassinés, pour Samuel Paty il y a 3 ans et pour le deuxième, M. Bernard peut-être, je ne sais plus, c'était vendredi dernier. Ah bah, t'en rompu la suite. Mais ça, il faudrait que je puisse mettre un jingle. Vous voyez? Allez, jingle.
À bâton rompu, le magazine de l'actualité Alter International.
Ah oui, mais bon, on parle. C'est pas tellement Alter International, mais c'est pas très grave. Donc voilà, hier, cet hommage au professeur. Oui, vous parlez pas de politique, hein, Ludovic Bourreau, pas trop.
C'est-à-dire, qu'est-ce que la politique?
L'assassinat du professeur vendredi dernier, 16 octobre, le professeur. Alors, c'est professeur de géographie, en tout cas, d'histoire, de français, Dominique Bernard, voilà, c'était ça, devant son lycée.
J'étais au rectorat, comme vous,
il
y a quelques jours pour l'hommage qui était... je garde en mémoire ce discours porté par l'Observatoire de la laïcité Loiret, qui était extrêmement fort, extrêmement émouvant, qui nous a rappelé... Le rôle des enseignants dans notre société, lorsqu'on s'attaque à l'école et aux enseignants, on s'attaque à la République tout entière. Voilà, j'en dirai pas plus. Extrêmement, je crois qu'il y avait un effet de sidération en fait.
Je pense.
J'étais sur le salon des intercommunalités quand on a appris ça. J'ai passé plusieurs jours complètement sidéré, et je crois que j'ai pas été le seul à ressentir ça.
Tout comme il y a 3 ans, hein, Samuel Paty. Et l'hommage hier était pour les deux, c'était donc hier, il y avait 3 jours, 3 ans exactement, l'assassinat de Samuel Paty, oui.
Après, que l'émotion soit passée, etc., je voudrais quand même revenir sur la proposition de Darmanin, du coup, d'exclure toutes les personnes qui sont considérées comme étant fichiers S du territoire national. Je trouve que c'est une mesure qui est complètement liberticide et qui est vraiment, vraiment flippante par les temps qui courent, justement, de paver ce genre de choses.
Et même techniquement et juridiquement, je crois que c'est pas tout à fait
possible. Bah oui, parce que techniquement, les fichiers S ne sont pas des personnes qui ont été condamnées par la justice. Donc on ne peut pas prendre de mesures réglementaires à l'encontre. C'est juste une dénomination administrative.
Et ben voilà, on va laisser parler Gérard. Hein, et puis on va plutôt écouter le discours dont vous parliez, Ludovic, d'une porte-parole du laboratoire de la laïcité. Discours très fort, évidemment.
3 fois, des enseignants... Samuel Paty le 16 octobre 2020, Agnès Lassalle en février 2023 et Dominique Bernard lors de ce funèbre vendredi 13 octobre dernier. Par 3 fois, des enseignants sont allés travailler, sont simplement allés faire leur travail, leur mission. Ils sont allés à l'école et y ont été assassinés. Par 2 fois, le terrorisme islamiste a frappé des professeurs de l'école de la République. Et à chaque fois, la République, notre République, s'est retrouvée meurtrie, abîmée, blessée en ce qu'elle a de plus emblématique, son école, c'est-à-dire son avenir, là où elle concentre ce qu'elle veut donner de plus beau à chacune et à chacun de nos enfants. La citoyenneté. Et qu'est-ce qu'être citoyen en France, au sein de la République française, si ce n'est savoir exercer sa pensée, son esprit critique et son autonomie? Jean Zay a dit en 1937, « Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. » Il l'a dit il y a longtemps. Cette phrase a été écrite à l'entrée du collège de Montreuil-Juigné dans le Maine-et-Loire. Il faudrait l'écrire, mais surtout la faire vivre à l'entrée de chacune de nos écoles.
Plus de Jean Zay et moins de Gérard Darmanin. Il y avait sur place des professeurs, beaucoup de professeurs émus évidemment, et surtout j'avais envie de leur demander ce qui s'est passé le matin. Ils devaient échanger avec leurs élèves à 10h et faire une minute de silence à 14h. Manu est professeur de maths dans un collège, écoutez ce qu'il a pu faire. Il trouve d'ailleurs que c'était très très bien, très important d'avoir institué ce temps d'échange avec les élèves.
Non seulement pour pouvoir... essayer de mettre en pensée ces événements qui sont compliqués, mais aussi sur l'organisation au sein de l'établissement, le positionnement vis-à-vis de nos élèves, déjà à l'arrivée à 10h, et ensuite autour de la minute de silence à 14h.
Comment ils ont réagi? L'acte en lui-même, ils le perçoivent comment ça?
Pour ce qui est de mon établissement, dans mon collège, en tout cas, il y a eu deux temps d'explication avec les élèves, pour qu'ils puissent bien comprendre ce pourquoi nous faisions cette minute de silence. Donc, moi, l'expérience que je peux raconter, donc il y a l'accueil des élèves à 10h, où on avait essayé d'homogénéiser avec un petit document qui donnait un peu un cadre pour recueillir ce que pouvait être leur position, ce qu'ils avaient entendu, ce dont ils voulaient parler et ce à quoi on pouvait apporter des réponses. Ensuite, de faire quand même un rappel des faits, à la fois des faits en cours d'enquête par rapport à l'assassinat de vendredi dernier, et à la fois le rappel des faits sur il y a précisément 3 ans par rapport à Samuel Paty. Sachant que le principe était quand même de centrer sur pourquoi un hommage national, et donc de faire comprendre, dans le cadre encore une fois de notre établissement, mais je pense que c'était le positionnement général, dans une situation aujourd'hui internationale qui est compliquée, et où... nos élèves, ils ne sont pas hors du monde et ils ont des contacts, ils ont de la famille qui subissent des morts quotidiennes ces temps-ci, qui comprennent pourquoi un hommage par rapport à 7 morts précisément. Et donc, de vraiment insister sur le symbole de l'école qui doit être une enclave protégée, avec un rappel de pourquoi la laïcité et de pourquoi une école publique obligatoire pour tous. Donc c'est par rapport à ça qu'on a insisté. Et des retours que j'ai, je crois que généralement ça s'est très bien passé dans les classes. C'est-à-dire que très bien passé dans le sens où l'émotion elle a été partagée, où la minute de silence elle a été respectée. Après, évidemment, avec des collégiens, il va y avoir des procédés un peu de défense qui, quand on discute avec eux, apparaissent. C'est-à-dire que les rires de certains élèves, parce qu'ils sont debout, exposés, en silence, mal à l'aise, en fait, ils sont entendables, on ne va pas leur reprocher. Mais je pense que le message est passé et que c'était important.
Édouard est professeur d'histoire et géographie, et lui également dans son collège, ça s'est plutôt pas mal passé.
Oui, donc j'étais en collège, donc on a eu déjà 2 heures d'échange avec les collègues et la direction. Et puis ensuite, j'ai reçu mes élèves à 10h, donc on a échangé, très simplement, revenir avec eux sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a des confusions, il y a des élèves aussi qui avaient vu les images, qui étaient très marqués par ça, donc... revenir sur les faits, expliquer qu'est-ce qui donne de l'importance à cet événement, le rôle de l'école, la question de l'enseignant, et puis au-delà de l'enseignant, des personnels, parce que c'est pas que des profs, il y a un chef cuisinier et puis une agente d'accueil, et puis leur expliquer le sens de la minute de silence. Voilà. Donc des échanges constructifs, que j'ai fait avec ma classe de 10h et ma classe de 11h également, et puis l'après-midi, la minute de silence qui s'est bien passée.
Après l'assassinat de Samuel Paty, ce qui nous était revenu, c'était ces sortes de confusion dans la tête de nos jeunes, qui disent pourquoi, commémorer, rendre hommage à Samuel Paty alors qu'au Moyen-Orient, et surtout en ce moment on y est, hein. Il n'y a pas eu ça.
Non, mais Samuel Paty, il y avait quand même une grande différence, c'est que l'hommage s'est fait après deux semaines. Deux semaines de vacances, deux semaines où ça pouvait discuter dans la famille, où pouvait y avoir des mélanges, où on pouvait relativiser, où il y avait les discours sur les réseaux sociaux. L'attaque s'est faite le vendredi, le lundi matin on est en échange avec les élèves, donc on a pu quand même rapidement échanger, ils étaient encore sous le coup de l'émotion, essayer de comprendre. Voilà, si ça s'était fait après les vacances, peut-être qu'on aurait eu les mêmes problèmes, et peut-être que ces problèmes vont surgir dans quelques semaines. Mais pour le moment, non.
Pour le moment, non, tant mieux, on touche du bois. Tu veux intervenir, Victor, là-dessus?
Non, pas spécialement.
Bah, un jingle et on finit cette émission avec la Région Centre.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
La Région Centre réunie en session plénière jeudi prochain. En ce moment, les sessions plénières tournent. Alors jeudi, ça devrait être à Bourges, exactement jeudi 19 octobre à Bourges. Session plénière Région Centre Val-de-Loire. Cette session va parler des orientations budgétaires, c'est de préparer le budget de 2024. Mais les élus vont également parler de plusieurs choses, notamment, alors je n'ai plus en tête, l'enseignement supérieur. On va en parler. Avec notamment, alors ça va t'intéresser Victor, le président de la Région Centre voudrait un Sciences Po en Région Centre.
Ah bah très bien.
Très bien.
Très bien. Enfin après ça dépend. Le problème qu'il y a avec les instituts d'études politiques, c'est qu'en fait il y en a beaucoup qui en fait ne sont devenus que de vulgaires écoles de commerce destinées à des personnes qui avaient fait elles.
J'ai un peu peur de ça, mais vraiment les personnes qui sont derrière le projet en Région Centre.
Ah oui, mais il y en a d'excellents IEP, ouais. Etc. Ouais. C'est une vraie formation intellectuelle et ouais. Etc. Ouais. Qui peut être très très forte.
Crois-moi, ça va se faire, ça va bien se passer parce que vu comment la région s'est mobilisée, notamment son président François Bonneau, pour la fac de médecine. Mm-hmm. Et vu ce que ça donne, le Sciences Po devrait bien marcher. D'accord. En tout cas, le président Bonneau nous a dit hier en conférence de presse que malgré ce qui se passe en ce moment, l'inflation, les difficultés pour chacun et chacune, il voudrait que les élus pensent encore plus à la solidarité plutôt que de réduire les subventions. Et aider plus les gens. On lui a demandé ce que ça voulait dire, un nouveau paradigme de développement, c'est comme ça qu'il appelle, un nouveau paradigme. Écoutez.
Regardez notre société, combien elle est en souffrance, combien la cohésion de la société est aujourd'hui malmenée. Si nous voulons une société qui avance véritablement par rapport à la prise en compte des défis essentiels. Je pense aux défis climatiques et environnementaux. Je pense aux défis de l'émancipation pour tous, qu'on n'ait pas des laissés pour compte du progrès. Il faut absolument, absolument que l'action publique et l'action publique de la région pour la formation professionnelle, l'action publique de la région pour les universités, l'action publique de la région pour les transports soit accrue. Il faut tout faire aujourd'hui pour assurer la cohésion sociale dans une société au sein de laquelle ceux qui participent et bénéficient du progrès seraient de moins en moins nombreux et ceux qui sont les laissés pour compte du progrès de plus en plus nombreux. Il faut reconstruire cette cohésion. C'est vraiment un principe politique fondamental que je propose pour notre région Centre-Val-de-Loire. C'est urgent, c'est imminent. On ne fera pas les grandes transitions environnementales, etc., s'il n'y a pas d'abord de la solidarité sociale, s'il n'y a pas d'abord du commun, des gens qui ressentent dans leur vie, au quotidien, qu'ils appartiennent à une seule et même société qui a des valeurs pour tous et qui donne une chance à tous. Et donc aujourd'hui, l'action publique, l'engagement de la région dans la mobilité, dans l'éducation, dans l'aménagement du territoire, dans l'accès à la culture, dans l'accès au sport, elle est absolument, absolument fondamentale et elle doit prendre en compte la totalité de nos concitoyens.
La session plénière du Conseil régional débattra également de l'enseignement supérieur, je vous le disais. Elle aura à connaître un rapport de schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. 5 ambitions, dit la région, faire de la région centre. Val-de-Loire, un territoire pleinement accueillant, un réseau mobilisé pour l'accompagnement des étudiants et étudiantes. La gratuité des transports, ça vous le savez, on en avait parlé ici ou pas déjà? La gratuité, oui, attends. On t'entend pas, mais...
Oui, bien sûr, on en a parlé avec Morad.
C'est ça, la gratuité pour les jeunes qui...